France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Aux urnes citoyens, dans trois jours, le premier tour des élections municipales. 48 700 000 électeurs sont concernés pour désigner leur élu préféré, leur maire. Ce sont toujours ceux en qui les Français ont le plus confiance. Alors avant d'entrer dans la période de réserve, vous l'avez trouvé comment, vous, cette campagne? Cette fois, elle n'était pas percutée par le Covid, mais par la guerre en Iran. Vous avez comparé les programmes? Votre choix est-il déjà fait? C'est l'élection de proximité par excellence, celle qui a le plus d'impact sur notre quotidien, qui va concerner plus de 35 000 maires à portée de baffe, comme on dit. Il y a 900 000 candidats en tout. La plupart seront réélus et n'auront pas d'étiquette, mais tout de même, les enjeux nationaux ne sont pas loin. Alors, y aura-t-il une vague, comme il y avait eu une vague verte il y a 6 ans? Quel rôle pour les extrêmes? Quelles alliances possibles? Le RN va-t-il poursuivre son implantation et les LR maintenir la leur? La gauche traditionnelle s'allier au cas par cas aux insoumis? Bref, quel rapport de force? Et votre futur élu, qu'en attendez-vous? Vous au juste. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Fabienne.
Nous vous écoutons.
Alors, je m'appelle Mathieu Auchard, donc je suis résident et électeur de Mers-les-Bains. C'est une petite ville balnéaire dans la Somme, touristique, très dynamique. Oui. Moi, j'ai connu au tout début une station balnéaire qui était inondée, qui était désertée, qui avait perdu son casino. Il y avait eu une très mauvaise gestion. Et on a eu longtemps un maire, Emmanuel Maquet, qui a redressé la ville et qui l'a totalement transformée en bébé. Alors aujourd'hui, on a un choix. On a deux listes à politique, en fait. Donc on a un ancien maire.
Oui, et on ne a donnez pas de nom, s'il vous plaît.
Oui,
on n'a pas le droit de donner des noms.
On a une liste. Et en fait, tout porte sur le côté apolitique. C'est-à-dire qu'on a une liste qui défend de ne pas faire de politique et de traiter le quotidien. Alors évidemment, ce qu'on attend d'un maire, c'est le quotidien. Mmh. Mais moi, je pense que ça n'existe pas. Un maire est forcément politique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision et les questions locales se traitent aussi au niveau de l'intercommunalité. Mmh. Et je pense qu'un maire doit être politique. Voilà ce que j'attends d'un maire et d'avoir une vraie vision d'avenir.
Bon, eh ben, on va en parler avec nos invités. Soazig Kemener, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être en studio avec nous. Rédactrice en chef de la Tribune Dimanche. Bonsoir Stéphane Zumsteg.
Bonsoir.
Directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Et bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Christelle.
Que les auditeurs de France Inter connaissent bien puisque vous êtes le chef du service politique. Mathieu nous dit... Moi, apolitique, pour moi, ça n'existe pas. Un candidat, il doit être politique. Soazig Kemener.
En fait, ça dépend si on parle de politique ou de politicien. Tout est politique.
La politique, au sens propre, c'est la vie de la cité.
C'est la vie de la cité, donc évidemment, tout est politique. Alors, après, c'est très intéressant parce qu'en général, on entend plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on entend qu'au niveau local, on peut trouver des solutions. Les uns et les autres peuvent discuter entre eux au sein du conseil municipal et trouver les meilleures solutions possibles pour les administrer. Et donc, là, c'est intéressant ce qu'on entend, mais est-ce qu'une vision est obligatoirement politicienne? Est-ce qu'il faut absolument une vision de gauche ou de droite? C'est ça, en fait, la question. Parce que si on a une vision, ça peut être une vision qui peut intéresser à la fois des électeurs de droite et des électeurs de gauche. Donc, normalement, dans ces scrutins, quand on regarde, hein, c'est intéressant, c'est ce que nous dit, en tout cas, la dernière enquête du CVPOF, hein, qui a porté vraiment sur 10 000 personnes interrogées. Ils expliquent que les personnes qui sont interrogées, qu'ils vont pas voter en fonction de la situation nationale et donc des enjeux politiques nationaux, mais en fonction des enjeux locaux à 76%. Et les enjeux locaux, en général, ben, à longueur de sondage, on a vu, c'est la sécurité du quotidien, c'est la santé, mais c'est surtout l'accès aux soins. C'est aussi, ça c'est politique et c'est national, c'est le narcotrafic. Mmh. Ça c'était un des gros sujets de cette...
On va
qui aurait
y venir,
dû
on va
être
y venir,
un des gros sujets de cette campagne qui n'a pas vraiment eu lieu.
Alors justement, Stéphane Zumsteg, c'est une enquête Ipsos BVA dont on parle, hein, pour le CVPOF, donc vous êtes bien placé pour en parler. Apolitique, ça n'existe pas pour
non, vous ? Non, parce que faire de la politique, c'est faire des choix. Et ce qu'attendent des administrés quand ils votent ou même quand ils ne votent pas lors d'élections et lors d'élections municipales, ils veulent quelqu'un d'actif, qui prend des décisions. Alors, pas forcément à leur place, mais en leur nom. En tout cas, après, ce que vous venez de dire est totalement juste. Est-ce que pour autant, ils sont prêts à voter pour des candidats étiquetés, c'est-à-dire identifiés politiquement, dans les petites communes, non, et dans les grandes communes, de moins en moins d'ailleurs. Ce n'est pas récent, ça ne date pas de cette année, mais de plus en plus, scrutins municipaux après scrutins municipaux, on voit bien qu'un certain nombre de maires, voire de grands barons qui ont une carrière à gauche, à droite, au centre, peu importe, se disent non pas apolitiques, mais refusent sur leurs affiches, par exemple, de mettre des logos de partis, parce qu'ils jouent un peu la carte du localisme, quelque part, en disant là, c'est pas l'homme politique, c'est pas l'ancien député, c'est pas l'ancien ministre qui se présente, c'est quelqu'un qui a un projet pour sa ville et pour être évidemment réélu. Donc il y a quand même ce sentiment qui illustre la défiance à l'égard des partis politiques. Après, les électeurs ne sont pas complètement dupes. Hein. Quand vous votez avec quelqu'un qui se dit
divers,
ou en tout cas, en fait, il y a de tout sur ma liste.
Il y a beaucoup de divers.
Ils savent très bien, en tout cas dans les grandes villes, que cette personne a déjà une longue carrière derrière elle et dans des partis très clairement identifiés.
Dans les grandes villes, il y a la recherche quand même de savoir qui est qui. En revanche, c'est vrai que dans les plus petites communes, c'est le lien interpersonnel qui pèse beaucoup. Et celui-ci est apolitique. C'est-à-dire, est-ce que mon maire, je peux lui parler? Est-ce qu'il me connaît? Et est-ce qu'il est capable de répondre à mes questions? Donc, cette dimension-là est beaucoup plus forte dans les petites communes. Après, tout ça se lisse complètement. Et Mathieu a raison de parler des intercommunalités. Parce qu'au fond, énormément de compétences sont remontées à l'échelon des intercommunalités. Plus aucune commune en France, sauf l'île de Bréa, il me semble, n'est pas sous le chapeau d'une intercommunalité. Et à cette échelle-là, tout ça devient beaucoup moins politique et au fond c'est toujours une espèce de compromis divers gauche, divers droite qui aboutit et qui a finalement le plus gros budget, c'est l'interco de Perpignan et pas la ville de Perpignan. Enfin.
Mais est-ce que les électeurs ils comprennent exactement quel est le rôle des intercommunalités ou est-ce que c'est encore un petit peu...
Les maires tiennent absolument à être élus au suffrage universel direct et ils ne veulent pas entendre parler de président d'intercommunalité élu au suffrage universel direct pour garder cette légitimité du peuple qui vote, mais bien sûr que les intercommunalités ont encore énormément à se faire connaître et au fond, les transports, l'urbanisme, les mobilités, etc., tout ça remonte toujours et c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas bien compte, mais dimanche, vous votez aussi pour les patrons de toutes les métropoles de France qui seront élus après tous les maires, mais qui auront le pouvoir et qui auront les plus gros budgets. Enfin, c'est considérable, le budget de la métropole de Lille ou de Marseille, et évidemment de Lyon, sont plus importants que les budgets des villes.
Et ils votent aussi pour les futurs sénatoriales, parce que ce sont des grands électeurs. Parce que c'est un peu le coup d'après.
Bien sûr, dans chaque commune, une partie du conseil municipal a vocation à voter au sein du conseil communautaire, et eux ensuite sont aussi des grands électeurs, bien sûr. Donc tout ça est une logique. Et à Perpignan, par exemple, où il y a Lyo, il cherche à gagner la métropole. L'interco, il ne l'a toujours pas eu, parce qu'avec sa ville et ses propres élus RN, il n'arrive pas à décrocher le pouvoir de son intercommunalité.
On repart au Standard. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, je vais toujours voter, je vais y voter, mais je suis vraiment furax par rapport à la nouvelle loi qui a lieu maintenant dans les petites communes, parce qu'on ne peut plus panacher, on ne peut plus rayer des noms dans des personnes auxquelles on n'aurait pas confiance, on ne peut pas rajouter des noms. Donc on arrive à un système où, par exemple, dans mon village, je n'ai rien contre la liste, il y a une seule liste, mais il n'y a plus le choix. Et le choix, c'est d'abord la garantie de la démocratie. Et puis, vous soulignez une chose, c'est que c'est très politique. Et vous avez des cas exceptionnels dans les communes. Parce que lorsqu'une commune, par exemple, se pose la question si elle va faire une piscine ou pas, ou elle va mettre un stop à un endroit ou à un autre, ça ne regarde que la commune. Mais là, par exemple, là où j'habite, dans la Meuse, les décisions qui vont être prises, qui ont été prises déjà depuis une trentaine d'années, engagent toute la région et toute la France, même vous à Paris, parce que nous sommes dans une situation où les maires se prononcent à travers leur mandat et celui de l'intercommunalité, savoir par exemple s'ils sont favorables ou pas à l'introduction de déchets nucléaires dans leur département. Et quand on voit le dévoiement qui a eu lieu, la corruption des consciences, et on se pose des questions, c'est très grave.
Bon, on va revenir au propos de Patrice au tout début de notre conversation, qui disait, dans les petites communes, on ne peut plus rayer des noms. C'est nouveau cette année, ça, Stéphane?
Oui, absolument. Jusqu'à présent, avant ces élections de dimanche prochain, dans les communes de moins de 1000 habitants, vous n'aviez pas, quand vous vous présentiez, l'obligation de présenter une liste, ou plus exactement, quand vous étiez électeur, vous pouviez, comme l'a dit votre auditeur, panacher, c'est-à-dire que vous pouviez barrer des noms. En d'autres termes, vous pouviez vous faire plaisir. Vous pouviez même, quelque part, ajouter un nom ne figurant pas sur une liste.
Bien sûr.
Pouviez mettre votre propre nom, le nom de votre voisin, c'est la loi le permettait. Il devenait candidat. Et s'il obtenait un nombre suffisant de voix, cette personne, en dépit de son plein gré, quelque part, pouvait être élu. Tout ça change. On revient au régime général dans ces petites communes. Tout ça, au-delà du caractère anecdotique, mais qui était quand même important dans les petits villages, d'autant plus dans les petites communes.
Ça faisait longtemps que ça existait, ça ?
Ah oui, depuis, je serais incapable de vous donner la date, oui, mais depuis des décennies, si ce n'est plus. Mais c'était d'autant plus important que dans une commune de taille réduite, par définition, vous connaissez les candidats, sont vos voisins, enfin, vous avez de multiples occasions de les croiser. Tout ça pourrait avoir une incidence sur le taux de participation dimanche prochain. Parce qu'à partir du moment où, dans la très grande majorité des villes, 35 000 communes en France, donc je ne sais pas combien de dizaines de milliers, évidemment, qui ont moins de 1 000 habitants, ou en tout cas là où il n'y a qu'une seule liste, quelque part, à partir du moment où vous êtes privé de cette capacité, de cette possibilité de faire des choix, notamment en barrant des gens, et à partir du moment où il n'y a qu'une seule liste, et on connaît d'ores et déjà le résultat...
Dans
deux tiers des communes. On connaît d'ores et déjà le nom des élus. Peut-être que tout ça pourrait dissuader une partie de l'électorat de ces petites communes de ne pas venir voter. Je pense que ça aura... Je suis incapable de la quantifier, mais
on
je
a
pense
un message
dans,
là,
dans ces
suite.
Petites communes, ça baissera.
On a un message, là, de Diane, qui nous dit sur, de Christiane, pardon, qui nous dit sur WhatsApp qu'elle n'ira pas voter à cause de ça. Donc ça pourrait avoir un impact.
Oui, ça peut avoir un impact sur la participation, bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est que les associations d'élus et notamment l'association des maires ruraux ne s'est pas opposée à cette nouvelle règle qui concerne autant le panachage que la parité pour les petites communes. Eux considéraient en gros que dans ce panachage, il y avait des vengeances, il y avait des histoires pas terribles, il y avait des gens qui se retrouvaient élus alors qu'ils ne le voulaient pas, et en fait c'était un peu cloche-merde cette histoire, il fallait passer à autre chose, il fallait en effet aboutir au régime général. Quant à la parité de fait est apparue
dans
aussi
les petites
dans
communes.
Les petites communes, et celle-ci alors avance progressivement, mais de fait les têtes de liste restent très majoritairement des hommes, et donc il y aura des conseils municipaux beaucoup plus paritaires qu'ils n'étaient. En revanche, la part de femmes maires ne va pas forcément prendre un bond exceptionnel, l'ordre de 2, 3, 4 points.
Et d'ailleurs, ça a été un sujet dans la campagne, c'est-à-dire que beaucoup d'élus expliquaient qu'ils avaient du mal à trouver des femmes qui s'engagent sur leur liste. Ça a été un gros sujet, ça a été une bataille d'ailleurs au
c'était
Parlement, c'est-à-dire
femme,
que les députés Horizon notamment ne voulait pas en entendre parler puisque c'est un parti qui est très implanté dans les territoires. Mais c'est vrai que cette histoire de panachage, c'est pas anodin parce que cette élection, c'est quand même celle où les Français continuent à aimer aller. Alors il y a eu la rupture. Est-ce que ce sera une rupture? En tout cas, il y a eu ce moment, l'accident de 2020 avec cette élection municipale percutée, ces élections municipales percutées par le Covid. Avec, on se souvient, un premier tour au mois de mars, juste avant le confinement, le grand confinement, et puis un deuxième tour au mois de juin. Mais globalement, c'est quand même les élections où on vote le plus. Et c'est vrai que tout ce qui pourrait éloigner les électeurs du bureau de vote dimanche est inquiétant, parce que ça va être un baromètre un peu, c'est toujours un baromètre de l'état de notre démocratie. Là.
Mais vous pensez finalement, les uns et les autres, qu'on va se retrouver plus près du niveau de participation de 2014 ou de 2022 aux élections législatives?
Alors forcément plus près de celui de 2014, la référence qu'il faut garder c'est 2014,
c'est
64%, deux tiers, à peu près un peu moins de deux tiers.
On sait que c'est l'élection préférée des Français.
2020, oui, et 2020 est totalement atypique, parce que là, pour le coup, il y avait eu 20% de participation en moins, je crois que c'était 45% des Françaises et des Français étaient allés voter, mais pour des raisons, uniquement 45%, pour des raisons qu'on peut bien comprendre. Toute une partie du corps électoral étant effrayée à l'idée se rendre dans un bureau de vote. Ça valait pour le premier comme pour le second tour, trois mois après, d'ailleurs. Donc, il faut évidemment prendre comme référence, c'est un peu moins de deux tiers de Français qui avaient voté en 2014. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus compliqué quelques jours avant une élection que de calculer le taux d'abstention quand on est sondeur. C'est très compliqué. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que le fossé qui s'est creusé entre les Français et leur représentation politique est encore plus profond en 2026 qu'en 2014. Donc ça, c'est un élément qui pourrait militer en faveur d'une abstention plus forte. Après, il y a d'autres éléments. L'offre politique est encore beaucoup plus fracturée qu'en 2014. Oui. Il n'y aura pas de liste, il y aura 3, 4, 5 listes dans un certain nombre de grandes villes. Je ne parle pas des petites communes, évidemment, mais là, des grandes villes. Donc, des motifs ou des motivations pour aller voter sont aussi plus nombreux. Donc, quelque part, c'est très compliqué de l'évaluer. Il y a des éléments qui militent en faveur du pronostic d'une abstention qui va encore progresser, comme elle progresse généralement depuis quelques décennies. Mais il y a aussi des raisons, quelque part, d'espérer, de par la multiplicité de l'offre politique, qui est plus riche, quelque part, qui est plus nombreuse, en tout cas, qu'en 2014.
Mm-hmm. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci de m'accueillir. En fait, c'est le titre de la présentation de votre émission qui m'a fait réagir, parce que, sauf erreur de ma part, vous annonciez que les Français allaient élire leur maire. Et voilà, oui. Je voulais simplement rappeler que les maires et les Français élisent d'abord un conseil municipal.
Oui, c'est vrai.
et que selon les textes qui sont toujours en vigueur, l'administration de la commune est d'abord confiée à un conseil municipal et que le maire ne fait qu'exécuter les décisions du conseil municipal. Et voilà, c'était pour faire part de ce regret de personnalisation.
Non, mais vous avez raison, je n'ai pas été assez précise et merci de l'être à ma place. Il fallait que ce fût dit. Justement, si on parlait de la réforme, parce qu'il y en a eu une cette année, pour les trois plus grandes villes de notre pays, c'est-à-dire Paris, Lyon et Marseille. Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Eh ben, c'est deux élections, deux urnes dans ces trois grandes métropoles, avec donc une urne pour élire le maire directement, et puis une urne pour élire l'arrondissement en question. C'est-à-dire que si vous êtes dans le 16e arrondissement de Paris, vous votez à la fois pour votre maire du 16e, puis dans une autre urne pour la mairie centrale, comme on appelle. Et donc, vous pouvez voter de manière différente, d'ailleurs. Hein, si vous voulez envoyer un signal central, très à droite, mais que, en fait, dans votre arrondissement, vous aimez bien un tel qui est plus au centre, eh ben, vous pouvez
le faire. On peut découpler. Bah oui. On a plus de liberté, c'est ça, Soizic Kemener ? On peut dire ça comme ça ?
Oui, et puis c'était censé, on verra ce qu'il en est dimanche, mais un peu révolutionner l'élection dans ces trois villes avec, vous savez, la bataille de Paris, par exemple, ça a toujours un sens particulier, c'est-à-dire que chacun se lance en se disant ça va être l'élection où tout le monde va me regarder, etc. Alors que c'est une élection qui se gagnait auparavant, arrondissement par arrondissement. Mmh. Là, c'est un peu différent. C'est une élection qui a été pensée pour que dans l'urne, on ait effectivement ce choix pour l'arrondissement et ce choix pour la mairie de Paris. Donc c'était censé vraiment personnaliser encore davantage l'élection parisienne. Alors, la campagne a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de campagne entre la fin de l'examen du budget à l'Assemblée et la guerre en Iran, mais c'était pensé comme ça, c'était pensé pour que les personnalités soient davantage mises en avant et que ça suscite d'ailleurs encore plus envie de la part des citadins d'aller voter, puisque c'est dans trois villes.
Surtout dans les arrondissements qui ne bougent jamais, qui ont toujours été à droite et qui ont toujours été à gauche, dans ces arrondissements-là, mais que ce soit d'ailleurs à Paris comme à Marseille, où finalement certains votes de droite ou de gauche, de l'autre côté, étaient comme perdus, puisque l'arrondissement ne pouvait pas changer de couleur sociologiquement parlant. Aujourd'hui, un vote de droite dans le 18e arrondissement aura autant de poids qu'un vote de droite dans le 16e.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un suspense phénoménal dans les trois villes qui sont concernées quand même par ce nouveau mode de scrutin, Paris, Lyon, Marseille, Stéphane Zumsteg. On commence avec Paris.
Ah oui, si vous voulez, oui. Alors, on peut donner des noms ou pas?
Les noms, on a le droit.
Parce que là, je vous pose la question.
On n'était pas loin du soutien à un candidat dans cette commune, et vu que j'ai pas de reporter à envoyer demain dans cette commune pour donner la parole à l'autre liste, et pour respecter les règles de l'ARCOM qu'on a toujours bien respectées sur France Inter.
C'est bien de le dire.
C'est pour ça que j'ai eu un tout petit peu peur. Mais alors, à Paris, les compteurs sont ouverts et vous n'êtes sous soutien de personne.
Je vais faire attention. Non, mais ce qui est quand même extraordinaire, vous voulez qu'on commence à parler par Paris?
Oui,
très bien. On ne sait pas à deux jours ou deux jours et demi du scrutin s'il y aura au second tour deux listes, trois listes, quatre listes ou cinq listes. A priori, il n'y en aura pas plus que cinq. Voilà, mais c'est quand même. Je parlais tout à l'heure de l'offre politique qui était plus riche ou plus nombreuse qu'auparavant. La fracturation politique, le spectacle qu'on nous a servi à l'Assemblée nationale n'est que le reflet de la fracturation de l'opinion. Et on va le voir dimanche prochain au premier tour, parce qu'à une époque, ça se jouait entre deux listes. Hein. Dès le premier tour, il y avait d'autres listes, évidemment. Mais au soir du premier tour, on avait une idée précise, voire très précise, de qui l'emporterait le dimanche suivant au second tour. Dimanche soir, on ne saura pas dans ces grandes villes, selon moi. Enfin, après, on verra avec les résultats. On ne saura pas ce qui se passera et ce qui se passera au second tour, mais aussi ce qui se passera le lundi et le mardi suivant le premier tour. Vous n'avez pas 48 heures pour vous rallier, fusionner, vous retirer dans une élection municipale. Il faudra aller très très vite et peut-être qu'en dépit de tout ce qui a pu être dit par un certain nombre de candidats ou par un certain nombre de formations politiques, eh bien, il y aura des accords qui seront passés, qui ne sont pas encore prévus, qui ont déjà été imaginés. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios, mais là encore, on ne sait pas combien de listes seront qualifiés et surtout combien seront présentes. Parce qu'après, il y aura une logique aussi de fusion, de désistement, de soutien.
Oui, fusionner, on rappelle deux choses. On peut fusionner à partir de 5% et on se maintient à partir de 10%.
Exactement.
Enfin, on a fait plus de 10%.
Et sur la base des différentes mesures d'opinion qui ont été réalisées, c'est pour ça que je parlais des 5 listes, en l'état actuel, on ne sait pas. Il y aura entre 2 et 5 listes qualifiées, en tout cas, pour le second tour.
C'est vrai que c'est très impressionnant de voir cette fragmentation à l'Assemblée nationale arriver au local quelques mois plus tard et de fait, on a une élection municipale avec la France Insoumise absolument dans quasiment dans toutes les grandes villes de plus de 30 000 habitants. Ils se sont lancés dans la bataille et leurs candidatures sont suffisamment crédibles pour être qualifiées.
Alors que c'est
la
première fois qu'ils se lancent autant dans la bataille. Ils n'ont qu'une seule ville, je crois.
Fâche-Tuménil, dans le Nord, tout à fait.
Oui, c'est ça, 19 000 habitants.
Oui, 19, pardon, non, enfin, pas beaucoup.
Pas chipoter. C'est pas une grande ville, on va dire, voilà.
Mais de fait, cette fragmentation-là, elle est très impressionnante. Ce sera le cas aussi à Marseille, sans doute, où autant la France Insoumise que le Rassemblement National sont en mesure de se qualifier pour le second tour. Et bien sûr que dimanche soir, lundi et mardi, ce sera un peu compliqué. En tout cas, est-ce que le PS et LFI vont finalement s'associer
C'est le grand suspense.
Voilà, dans beaucoup de villes, mais on commence. On était en reportage à Nantes ce matin. À Nantes, en off, comme on dit, Johanna Roland,
oui.
La maire de Nantes, elle fait dire que bon, le candidat insoumis, c'est pas non plus un horrible insoumis complètement fan de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a peut-être quelque chose à construire avec lui. Donc on sent déjà que ça commence à bouger.
Justement, pardon, pour en revenir à l'histoire de la gauche et de cette alliance qui est devenue... on ne sait pas trop ce que ça va devenir d'ailleurs entre le PS et les insoumis. Est-ce que ce qui s'est passé à Lyon avec Quentin de Ranc a vraiment eu un impact sur cette campagne, Soizic Kemener?
En tout cas, ça a eu un impact, mais un impact peut-être de l'autre côté de l'échiquier politique. C'est-à-dire qu'on voit, et d'ailleurs on le voit très bien dans le sondage, je vous regarde dans le sondage du Cevipof, on voit très bien que ça a créé un réflexe de tout sauf gauche globalement, plus que presque... tout sauf LFI, tout sauf gauche de la part des électeurs bloc, du sympathisant de droite tel qu'on le voit dans votre sondage. Alors vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais en tout cas ça a créé une forme de détestation
de
l'ensemble de la
tout
gauche.
LFI, Stéphane Zumstein,
écoutez, que les appareils politiques de gauche soient déchirés, se déchirent, les socialistes n'aient plus rien à dire aux insoumis, c'est une réalité, et c'est une réalité qui ne date pas de ce drame lyonnais. Est-ce pour autant que les électeurs de gauche sont prêts à faire l'économie, à sacrifier une victoire possible quand elle est possible au nom d'une rupture avec les insoumis? Je n'en suis pas persuadé dans l'enquête que vous citiez.
Mais alors je parlais de l'autre paire de l'enquête quand vous interrogez les sympathisants LR, RN, les sympathisants de droite. Vous savez, la question était de savoir si la fameuse sortie de Jordan Bardella sur le cordon sanitaire LFI avait fonctionné ou pas. Et quand je vois, j'ai l'impression que ce discours a pris dans cet électorat-là, pour être plus précis.
Vous avez raison, ça a pris dans cet électorat-là. C'est important, c'est intéressant de le souligner, mais je n'en vois pas la traduction électorale, parce que de toute façon, ces gens-là sont de droite ou de droite radicale, ne voteront jamais pour une liste de gauche, fût-elle ou pas soutenue par les insoumis. Le tout sauf LFI a un petit peu remplacé, et d'abord le tout sauf LFI orchestré par l'intégralité de la classe politique, à l'exception des insoumis, a bien pris, bien évidemment, et c'est du pain béni, ça a été une formidable opportunité pour Jordan Bardella, mais quelle revanche pour le Rassemblement National, puis...
Ça peut avoir un impact.
Ça peut avoir un impact, mais je pense malgré tout que cet impact sera limité, parce que je répète, dans cette enquête que vous avez citée, que nous avons réalisée, l'enquête électorale française, on voit bien...
Vous avez interrogé plus de 10 000 personnes.
Quasiment 11 000 personnes, et c'était la semaine dernière.
C'est une énorme enquête.
On voit bien, quand on demande aux sympathisants de gauche, aux socialistes, aux écologistes, est-ce qu'ils sont disposés à ce que LFI rejoigne des listes non-LFI au second tour? Oui, ce n'est pas le signe d'allégeance, c'est pas le signe qu'ils aiment Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise. Vous êtes un électeur de gauche, vous voulez quoi? Vous voulez que dans une grande ville, vous voulez que votre candidat soit élu. Vous êtes un électeur de droite, vous voulez dans votre ville que votre candidat soit élu. C'est aussi simple que ça. Il y a les appareils, qui d'ailleurs, on voit bien le changement de ton d'Olivier Faure notamment, qui reste très prudent, mais un électorat, même s'il n'aime pas un autre parti de sa coalition, disons de gauche, ce qu'il veut, c'est la victoire. Les gens qui auront voté au premier tour Emmanuel Grégoire ne seront pas gênés par un éventuel ralliement de Sophia Chikirou à cette candidature. Très clairement, on n'est pas dans le cynisme, on est dans le pragmatisme électoral. L'union de la gauche, ça veut dire quelque chose, comme l'union de la droite, pour une partie des électeurs de droite, ça veut dire quelque chose.
Et puis les consignes électorales, on sait ce que les Français en font quand même depuis un petit moment.
Oui, c'est rarement suivi.
Mais pour répondre à votre question, ça a créé encore plus de clivages. Ça a amené, on le voit, cette affaire Quentin de Rhin, que finalement, la gauche a un choix, alors qu'il sera un choix municipal, et vous avez raison, il va y avoir des alliances, et on a compris ce qui allait se passer à Nantes, notamment. Ça, elle s'en est pas cachée, Johanna Roland. Mais la question qui est derrière, c'est la présidentielle. Et c'est la forme de détestation, et c'est ça que j'ai essayé de souligner tout à l'heure, forme de détestation de LFI qui s'est élevée là, dans cette campagne, qui n'était pas si présente auparavant, même si on l'entendait, mais mais qui est devenu un repoussoir absolu. Et donc, la question, c'est quelle trace ça va laisser dans la présidentielle, quelle trace ça va laisser dans un éventuel second tour.
Cette
donc,
brutalisation de la vie politique,
on est en train d'écrire, à travers cette campagne, on est en train, derrière quand même, d'écrire 2027. Et c'est pour ça que le clivage que je voyais tout à l'heure dans votre sondage m'interrogeait sur la suite des opérations.
Maxence ?
Non, c'est vrai que cet entre-deux-tours peut structurer la présidentielle et peut un peu définir les espaces de jeu, est-ce que par exemple le Bloc central et LR vont s'associer et trouver un terrain d'entente et réussir à gagner, par exemple, parce qu'il n'y aura qu'un seul candidat, typiquement Rachida Dati à Paris. À gauche aussi, ça peut jouer, mais ce qui est assez particulier, c'est que des alliances, par exemple à Nantes, peuvent aider la maire de Nantes à être réélue, mais à Toulouse, l'alliance potentiellement entre le PS et la France Insoumise peut aider le divers droite Jean-Luc Moudenc à être réélu. Mmh. Donc, il n'y a pas un schéma, et alors le PS dit, et le dira sans doute dimanche soir à ce micro, pas d'accord national, il n'y a pas d'accord national, de toute façon, puisque ce sont des élections locales, donc,
oui.
Et chaque élection locale est bien particulière, et c'est selon le
Oui, mais on voudra forcément tirer des...
C'est évident. Mais on ne pourra pas cantonner un accord local en disant non, mais ça, c'est juste une broutille, ce n'est qu'un accord local. Non, ça donne le ton et évidemment, ça peut structurer la suite des échanges.
Et qu'est-ce qui va se passer à droite ? Et à la droite de la droite, par exemple, parce que là, on vient de parler de la gauche et de l'histoire de l'alliance entre la gauche traditionnelle, j'ai envie de dire, et les insoumis, et à droite, la porosité entre le Rassemblement national et LR, Stéphane Zumsteg.
Déjà, il y a une mauvaise nouvelle pour la droite, pour les républicains ou pour les candidats divers droites, c'est que très longtemps, les centres-villes, les grandes villes gentrifiées en France étaient une terre qui résistait énormément, qui était très hermétique au vote Rassemblement National. Ce qui fait que, par exemple, en 2020, dans un certain nombre de ces très grandes villes, le Rassemblement National n'a pas obtenu 10%. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas été en mesure de se maintenir au second tour et donc n'a pas été en mesure de nuire aux candidatures de droite ou divers droites ou républicains. Quand, en 6 ans, le RN il est passé de la zone des 20% à la zone des 30% des suffrages lors des élections nationales. Donc forcément, dans toutes ces villes où il avait obtenu 6, 7, 8, 9% des scores décevants, il fera plus de 10%. Et donc, il sera présent au second tour. Et donc, il gênera la droite. Il y a peut-être des endroits, il y a des villes où la droite est sortante, où elle n'était pas censée perdre. Peut-être que la droite perdra ses villes parce que le RN captera une part importante de ce vote. Après, pour répondre à votre question sur l'union des droites, moi je pense que, en tout cas, les Républicains ne sont pas encore mûrs pour ça. Le RN en veut-il vraiment ?
Je disais encore hier matin.
Je ne vais pas revenir sur les différences de stratégie entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais je pense que ces choses-là se mettront plus en place après le scrutin présidentiel, après notamment une éventuelle victoire de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Je dis bien éventuelle victoire. Mm. Mais pour l'instant, quand vous êtes un élu de droite, vous êtes un baron local, vous êtes monté dans un appareil, vous avez une carrière politique, vous êtes prêt, comme n'importe quel homme politique, à toutes les compromissions pour être réélu, pas plus à droite qu'à gauche. Mais je pense que là, hésiter, je ne pense pas qu'il y aura des défections, en tout cas dans les grandes villes françaises, peut-être dans quelques petites villes de quelques dizaines de milliers d'habitants, mais dans les très grandes villes françaises, je ne vois pas quel élu pourrait céder aux sirènes d'un accord avec le Rassemblement National.
Ça n'existera pas. Oh non.
C'est trop tôt.
Il n'y aura pas, Martine Vassal ne va pas rejoindre Franck Alizio.
C'est encore urticant.
Non, mais ça, pour l'instant, ils n'ont aucun intérêt. Ils ont aussi beaucoup de chance, les LR, parce qu'il n'y aura pas de configuration, en tout cas, pas à ce que je sache, de ville où il faut faire barrage à LFI en appelant à voter RN et en se rangeant derrière un candidat RN mieux placé. Il n'y aura pas tellement, aux législatives, ce fut le cas, mais de duel RN-LFI au second tour, ça n'existera pas. Donc LR n'aura pas à se positionner dimanche soir sur le thème « Oui, mieux vaut voter RN que de voir un maire insoumis gagner ». Cette configuration-là, pour eux, heureusement, ça ne se posera pas. Ensuite, bien sûr que Gérard Larcher essaye de tenir la maison, et c'est pour ça qu'il est venu hier matin sur France Inter dire à quel point Sarah Knafo, c'était hors de question, par exemple, parce que lui cherche encore à tenir la maison, et cherche à tenir aussi son Sénat, puisqu'il se méfie beaucoup de l'émergence d'un groupe RN, d'un groupe potentiellement du parti d'Éric Ciotti, lors des sénatoriales en septembre, et c'est là, dimanche, que tout se joue. tout. Et c'est bien sûr son... Enfin, lui imagine un Sénat beaucoup plus difficile à gouverner, et potentiellement, la droite perdrait la majorité au Sénat en septembre si la droite perdait beaucoup de conseillers municipaux dans les villes qui nous échappent un peu, à vrai dire. C'est les villes qui se situent entre 10 000 et 30 000 habitants, qui font...
Là où la droite est forte.
Voilà, là où la droite est forte. Dimanche soir, on n'aura pas les yeux partout, et ces villes-là nous échapperont peut-être, mais c'est là où LR peut perdre gros.
Alors que LR, finalement, essaie juste de se maintenir, parce qu'il faut quand même rappeler que les deux partis les mieux implantés, hein, au niveau local, c'est les Républicains et le Parti Socialiste.
Oui, mais ce sont les grands brûlés du macronisme qui ont le mieux résisté à l'échelle locale, parce que c'est un parti aussi d'élus locaux. Et si les LR et si le Parti Socialiste, finalement, ont réussi à survivre en dépit de tout ce que leur a fait le président de la République depuis 2017, en stratégie d'asphyxie ou de débauchage, eh bien, ils sont de retour, et les élections municipales sont les élections pour eux idoines quelque part, pour montrer qu'ils existent encore.
C'est le poids de l'histoire et de la culture du parti.
Bien sûr, voilà, ce sont des partis centenaires, ils ont pu changer de nom pour certains, évidemment, ouais, à droite, mais ils sont toujours là, et ils ont un volant d'élus locaux qui rassure aussi les électeurs. Parce que le PS et les LR ne sont pas, ont beaucoup souffert à l'échelle nationale, à l'échelle locale c'est différent.
Mais à l'échelle locale, il n'y a pas ce phénomène de dégagisme, en tout cas beaucoup moins, sauf dans les grandes villes.
Beaucoup moins, parce que d'abord... quand vous êtes un administré, en général, en règle générale, très majoritairement, on l'a testé toujours dans l'enquête qu'on citait, vous êtes satisfait, vous manifestez votre satisfaction à l'égard d'une action municipale. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de mouvement ? Non, c'est faux. Ce sont des élections où les enjeux locaux comptent beaucoup, mais les enjeux nationaux comptent aussi un petit peu, en tout cas dans les grandes villes. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle de vagues roses, de vagues bleues, parfois de vagues vertes, comme la dernière fois.
Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ces élections intermédiaires, c'est un peu particulier. Emmanuel Macron est à la fin de son mandat. Il n'y a pas de... D'ailleurs, ça, encore une fois, ça ressort de votre enquête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de voter contre le pouvoir en place. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui va faire que ces élections seront peut-être un petit peu plus locales que celles auxquelles on pouvait s'attendre, ou celles qu'on a vécues d'ailleurs en 2014. C'est-à-dire qu'il y a, vraiment l'idée que Emmanuel Macron va passer la main, on ne sait pas du tout de quoi sera faite la nouvelle majorité. Donc il y a l'idée aussi de voter pour sa commune, pour les sujets dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment les sujets de proximité, les sujets du quotidien, et peut-être moins pour envoyer un message. Parce que finalement, à qui envoyer un message aujourd'hui, un président qui sera parti l'année prochaine.
Il manque la cible. Il n'y a pas tellement de cibles, et il n'y a pas non plus beaucoup de sortants. Donc il faut dire qu'aller essayer de faire battre un maire macroniste, c'est difficile, puisqu'il n'y a que celui de Nevers.
Oui, il n'y en a pas.
Quasiment. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de... Enfin, où est-ce qu'on tire, où est-ce qu'on vise pour exprimer notre mécontentement. C'est aussi pour ça que le RN peut faire de très gros scores, parce que le mécontentement disons national peut aboutir à un vote RN assez fort. On verra l'échelle, à vrai dire. On sait que le vote RN sera fort, on ne sait pas quel plafond il atteindra.
Stéphane Zumsteck, dans votre enquête Ipsos BVA avec le CEVIPOF, vous notez quand même une droitisation du vote.
Ah oui, bien sûr, mais ça, ce n'est là encore que le reflet de la droitisation des opinions publiques sur les questions régaliennes. J'insiste sur les questions régaliennes. Parce que longtemps, on a dit que les Français étaient de plus en plus à droite. C'est une réalité, c'est une réalité sur certains sujets. Évidemment qu'aujourd'hui, quand vous êtes un électeur ou un sympathisant proche de la droite dite classique, de la droite de gouvernement, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice, sur les questions d'autorité, vous êtes quasiment autant à droite, et parfois d'ailleurs plus à droite qu'un sympathisant du Rassemblement National. Mais il y a une droitisation sur ces sujets-là. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment, parce que sur les questions sociétales, sur les questions sociales, sur les questions économiques et sociales, sur la question de la dépense publique, de la réhabilitation de la dépense publique, on voit bien que les gens restent aussi, notamment à gauche, mais pas qu'à gauche aussi, non pas arc-boutés, mais attachés à des domaines qui traditionnellement sont classés à gauche. Après, on peut discuter de ce classement. La sécurité, c'est la droite, l'aide sociale, c'est la gauche. C'est peut-être réducteur, mais malgré tout, cette droitisation ne concerne pas les questions économiques et sociales. Les Français ne sont pas devenus plus libéraux ou plus madelinistes, pour faire simple, qu'à une certaine époque, mais ça ne concerne que ces domaines bien particuliers, mais qui pèsent lourd aujourd'hui dans les préoccupations.
On repart au standard. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Alors, je fais très vite parce que je crois que l'émission touche à sa fin.
Oui.
Je voulais juste revenir sur le fait que au deuxième tour, effectivement, il peut y avoir une tentation pour des candidats de continuer à se présenter et pour les électeurs de continuer à voter pour leurs candidats. Mais je voulais évoquer la prime aux gagnants énorme qui existe donc dans ce scrutin et qui fait que la liste arrivée en tête, en fait, aura la majorité au conseil municipal et donc gérera la ville. Il n'y aura pas un panachage et ensuite une entente parmi les différentes tendances qui auront, les différentes listes qui auront été amenées à être élues. Elles auront une représentation, mais la représentation principale, c'est la fameuse prime au gagnant, ça sera pour la liste arrivée en tête, même si c'est d'une courte majorité et que ça ne représente pas du tout la majorité des électeurs.
Effectivement, c'est intéressant de le dire là.
Bien sûr, vous avez raison, c'est 50% de prime majoritaire, vous gagnez, vous avez 50% des sièges, sauf à Paris, Lyon, Marseille,
voilà.
Ce qui peut bien compliquer la donne, parce que si le vainqueur de l'élection municipale à Paris, Lyon, Marseille ne dépasse pas les 30%, il n'aura pas de majorité, et c'est possible en cas de code angulaire par exemple, et à ce moment-là, il devra composer une majorité, comme à l'Assemblée nationale on a l'habitude de le faire, avec d'autres élus, d'autres listes, au fur et à mesure des votes, potentiellement dès le premier budget. Et à Paris notamment, il y a cette inquiétude et cette recomposition possible avec le groupe centriste qui se maintiendrait et qui finalement réussirait à reprendre des voix un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour que Pierre-Yves Bournazel soit maire de Paris. Voilà, il y a cette hypothèse-là dans le coin d'une tête.
C'est important de le dire parce que ça peut changer beaucoup de choses.
Bien sûr. Donc on verra le nombre de listes en piste à Paris, Lyon, Marseille pourra déjà donner une idée des 6 années à venir pour ces villes, parce que de fait, ça pourrait devenir ingouvernable.
Oui, ce serait un ratage pas possible de la réforme.
Amendement MoDem qui s'est fait à la dernière minute, et que cette histoire s'est un peu faite sur un coin de table, parce qu'il fallait absolument passer cette loi avant l'année, avant l'élection. Et tout ça s'est fait assez vite, et ils se sont rendus compte après que 25%, ça pouvait coûter cher.
Et oui, ça peut coûter cher. En tout cas, ça rajoute au suspense. Oui. Nous, on se retrouve dimanche soir pour la soirée électorale. Maxence et Stéphane Zumsteg, merci beaucoup à vous, Soazic Kemener, de nous avoir rejoints pour dialoguer avec les auditeurs de France Inter. Et n'oubliez pas d'aller voter. C'est dimanche, le premier tour des élections municipales. À suivre les petits bateaux avec la question de Mathéo, 5 ans et demi.
Pourquoi les vers de terre sortent de terre quand il pleut ? Au revoir.
Réponse à suivre.